L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Bertha s'est levée sans bruit. Doucement, elle a soulevé le drap, a vérifié que son époux dormait et a rejoint la salle de bain sur la pointe des pieds. En secret, depuis quelques jours, elle a pensé à chaque détail de son expédition. Elle a pesé le pour, le contre, les dangers, les risques de parcourir une telle distance. Puis, elle a pris sa décision. Ce matin, Bertha prendra le chemin de Pforzheim. Et elle emmènera avec elle ses fils, Richard et Eugène. Les routes ne sont pas bonnes. Le parcours n'est pas sans danger. Mais elle sait que son projet est la seule échappatoire. Ce matin d'août 1888, réunissant quelques affaires et le pique-nique préparé la veille, Bertha, Eugène et Richard ont quitté la maison familiale à pas de loup, sans faire de bruit. Ils ont ouvert la porte de l'atelier qui donne sur le jardin et, s'éloignant de la maison, ils ont poussé sur plusieurs mètres l'invention de leur père. « Ne t'inquiète pas, je pars avec la Patton Motorwagen. Je te donnerai des nouvelles par télégramme. » Dans la cuisine, à la lecture de ces quelques mots en état de choc, Karl s'est assis. Ce matin du 5 août 1888, pétri d'inquiétude, Karl Benz ignore que la fugue de son épouse changera pour toujours la face du monde. Il est 7 heures du matin, l'heure du petit déjeuner que Bertha n'a pas pris avec son époux Karl Benz, et c'est l'heure H de notre histoire. La veille, en se couchant, Bertha s'est blottie contre Karl. Elle a respiré son odeur, aligné son souffle sur le sien. Elle aime cet homme qu'elle a épousé plus de 10 ans auparavant. Karl la rend heureuse, songe-t-elle. Cette passion commune qui les anime la comble chaque jour. C'est comme une adrénaline, une course en avant, une zone de rencontre intellectuelle qui les lie l'un à l'autre. Comprendre, imaginer, inventer, créer. Observer un mécanisme, le reproduire, se tromper, repartir à zéro. Elle se souvient des discussions enflammées partagées avec Karl autour de ses inventions. Des objections qu'il pouvait émettre sur les idées de l'un ou de l'autre. Des cris de joie lorsqu'un problème trouvait sa solution. Mais le résultat est là. Un engin roulant motorisé. Voilà ce qui anime Karl. C'est une innovation. Cela fait des années que Karl travaille sur cette machine, cette satanée machine. Elle leur en a fait passer quelques nuits blanches, mais Karl y est arrivé. Ils y sont arrivés. Le tricycle Benz 3 est une révolution. Trois roues, une manivelle de direction, un moteur à essence, un monocylindre d'1 litre refroidi par de l'eau, une puissance de 560 watts. L'allumage est électrique. La soupape d'admission, commandée. Il y a une boîte de vitesse et un différentiel. C'est une sorte de véhicule hybride entre un tricycle et une calèche propulsée par un moteur à combustion interne. Ça roule 100 chevaux. Les essais sur de petites distances sont concluants. Mais à part quelques ingénieurs avides de nouveautés, c'est comme si le monde n'avait pas compris l'ère vers laquelle on se dirige. Depuis sa première rencontre avec son jeune ingénieur, Bertha s'est enthousiasmée pour ses idées. Toute jeune encore, Bertha a succombé à l'esprit de Karl. Son intelligence, inventive et curieuse, l'a séduite. Le plaisir d'expérimenter, voilà ce qui définit le jeune homme. Karl, tout naturellement, est tombé sous le charme de cette jeune femme impétueuse, à l'esprit vif, avide et singulier. Les parents de Bertha, des bourgeois conservateurs de Pforzheim, ont dans un premier temps redouté cette union. L'inquiétude dominait. Karl est sympathique, certes, mais il n'est pas fortuné. Et ce ne sont pas ses idées loufoques qui vont le conduire quelque part, avait tenu le père de Bertha. La jeune Allemande au caractère bien trempé a tenu tête à ses parents et finit par épouser Karl. Elle a même investi toute sa dot dans la société de son époux. Et le jugement de Bertha était plutôt avisé. Le jeune scientifique, grâce à ce financement, a pu faire breveter son premier véhicule et obtenir un certain crédit auprès de ses semblables. Bertha s'est réjouie de cette victoire, mais elle restait préoccupée. La jeune femme révéla à l'une de ses amies ses regrets. Karl s'obstinait à ne rester qu'un inventeur. Pétri dans ses idées, il ne mesure pas l'or qu'il a entre les mains, s'était-elle ouverte auprès de sa confidente. Bertha a de grands rêves. Pour la jeune femme, l'invention marque le début d'un processus et non pas la fin. L'ultime but, c'est de partager l'innovation avec le plus grand nombre. C'est que l'invention fasse partie de la vie de chacun. Bertha, vous l'avez compris, est visionnaire. Elle aspire à ce qu'un jour toute personne puisse profiter d'un véhicule comme la Patton Motorwagen. Bertha en est certaine. Ce moyen de transport fera partie de notre quotidien. Il faut commercialiser cette innovation insoupçonnée. Malheureusement, et Bertha en a conscience, Karl ne maîtrise ni l'art du commerce, ni celui de la promotion. Or, Bertha est convaincue que si l'on peut prouver au grand public l'utilité de l'invention de son époux, le succès financier sera au rendez-vous. Cette nuit d'août 1888, allongée auprès de Karl endormi, son esprit vagabonde, impossible à calmer. Derrière les rideaux, les lampadaires de Mannheim se sont éteints. Bertha se retourne. Sa montre posée sur la table de chevet du lit conjugal indique 1h du matin. « Il faut que je dorme », songe-t-elle. La journée sera éprouvante. Au loin, la cloche de l'église des Jésuites sonne un coup dans le ciel de Mannheim. 3h30 du matin, en sursaut, Bertha ouvre les yeux. Un frisson l'a parcourue. Un rêve l'a sortie de son sommeil. Elle se retourne, se blottit à nouveau contre Karl, qui dort paisiblement. Bertha se repasse le chemin jusqu'à Pforzheim, qu'elle connaît bien. Les routes. C'est ce qui l'inquiète encore. Pourvu que les roues de la machine puissent progresser sur ces chemins prévus pour des chariots à cheval. Le réservoir d'eau va se vider par l'évaporation. Va falloir le remplir, certainement à plusieurs reprises. Il y a des sources dans les campagnes et des fontaines dans les villes. Cela ne devrait pas poser de problème. Le réservoir à essence ne contient que 4,5 litres. La consommation moyenne est de 10 litres au 100 km. Il y a 106 km. Entre Mannheim et Pforzheim. Il faudra trouver un ravitaillement en cours de route. Bertha est agitée. Elle tente de calmer son esprit qui s'est emballé. Elle se concentre sur sa respiration, sur celle de Karl, qui ronfle doucement, puis finit par se rendormir. Enfin l'aube et ses premières lumières qui tirent du sommeil les plus matinaux. Bertha s'est levée sans bruit. Dans la cuisine, alors que Karl dort encore, elle remplit les boîtes métalliques des sandwichs aux œufs et au lard qu'elle a cuisinés la veille. Elle les a cachés dans le garde-manger. Karl n'y va jamais. Au moment où elle tranchait le pain de mie, Karl lisait le journal au salon. Il pensait qu'elle préparait le dîner. Il n'a rien remarqué. Un peu de charcuterie, quelques œufs durs et des fruits devraient faire l'affaire. Bertha a enfilé ses bottes à petits talons joliment lacés. Le meilleur bottier de Mannheim les a réalisées sur mesure. « Si je suis en difficulté, ce seront les plus confortables », s'est dit Bertha. En ouvrant la penderie, elle a soigneusement évité ses robes aux multiples jupons encombrants et lourds lors de la marche. Elle a évité la crinoline et ses armatures, craignant de rendre le voyage incommodant. Non, Bertha a choisi une jupe, toute simple, modeste, aux couleurs sombres. Autour du cou, craignant le froid, elle a noué un joli foulard de couleur et, au moment de sortir, elle se couvrira de sa capeline, prête dans l'entrée. Pour l'instant, s'adressant à ses fils en chuchotant, elle veille à ce qu'ils aient avalé les saucisses et les œufs qu'elle leur a préparés. Eugène et Richard sont grands maintenant. Ils ont 14 et 15 ans et sont en pleine vacances scolaires. Ils sont dans le secret de ce départ depuis la veille. Richard, qui est de nature plus prudente, a émis quelques réserves. Il s'inquiète de voir sa mère se confronter à une telle aventure. Eugène, lui, a eu du mal à cacher son impatience. Ce périple, c'est la folie qu'il attendait pour son été. Monter à bord de la patente l'enthousiasme follement et revoir sa grand-mère est chaque fois une joie. Bertha sait que leur présence lui sera d'une aide précieuse. Ils ont une belle taille maintenant. Ils pourront non seulement l'aider en usant de leur force, mais aussi décourager les plus inopportuns. « Vous avez vos manteaux ?» intervient Martha. Dans la précipitation, elle n'a pas pris le temps de détailler la tenue de ses fils. « Il pourrait faire froid à cette allure !» 106 kilomètres au total. Bertha fait le calcul. Sa machine roule entre 10 et 15 kilomètres par heure. Il faudra près de 10 heures pour rejoindre Pforzheim, si tout va bien. Bertha doit emprunter la route en direction du sud. Il faut donc traverser toute la ville et rejoindre le Neckar, l'affluent du Rhin par la rive droite. Mannheim se trouve au confluent des deux fleuves. Le centre-ville, véritable enclave entre les deux cours d'eau, est construit comme un damier à la manière romaine, avec des perpendiculaires et des parallèles, des artères numérotées, lettrées. Un système à ce point ingénieux qu'il se raconte qu'il aurait inspiré la construction du centre de Manhattan à New York, la capitale du Nouveau Monde. Mais pour l'heure, il faut traverser Mannheim, rejoindre le pont de pierre qui enjambe le Neckar au nord de la cité antique pour ensuite longer le fleuve vers le sud. Le danger dans Mannheim, c'est le nombre de chariots à chevaux et de piétons poussant des charrettes à bras, surtout à cette heure. Tout le matin, marchands et maraîchers alimentent les étals du marché et les petites boutiques de la ville. L'activité est intense dans l'enceinte de la cité. Le bruit du moteur de la Patent Motorwagen pourrait effrayer les chevaux. Bertha est vigilante, concentrée. Il faudra garder une vitesse constante. Ainsi, parcourant les premiers mètres de leur voyage improbable, Bertha, aux commandes de sa machine roulante et ses deux fils, descendent les rues de Mannheim sous le regard médusé des premiers levées. Un chariot sans chevaux, crachant et hurlant sur son passage, dirigé par une femme et deux jeunes adolescents. C'est certain, le tricycle ne passe pas inaperçu. L'attelage en métal de 360 kg, guidé par une force invisible, se déplace dans un bruit assourdissant. La Patent Motorwagen 3 semble venue d'un autre monde, d'un autre temps. Après les premiers mètres parcourus sous tension, Bertha gagne un peu en assurance. Assise sur la banquette de son tricycle, la jeune femme de 39 ans ressent, pour la première fois, un sentiment de liberté inexprimable. La sensation du vent dans ses cheveux, l'impression d'être en lien avec les éléments et l'extrême intuition, à ce moment précis, de diriger pleinement son destin. Bertha a pris le contrôle de sa vie et elle en est grisée. En quelques minutes, l'entreprenant trio a rejoint le centre-ville. Bertha semble découvrir avec un regard neuf le palais baroque de Mannheim, sa vaste cour d'honneur et son fronton de 400 mètres de long. Des grilles légères et derrière, des façades monumentale, symétrique, organisée autour d'une immense cour. Son château baroque est le deuxième plus grand palais d'Europe après Versailles. Richard et Eugène, comme tous les enfants de Mannheim et d'Allemagne, ont appris sur les bancs de l'école qu'à l'origine, ce château, aux couleurs ocre et blanc, servait de résidence au prince de la maison de Wittelsbach et que son rayonnement a joué un rôle important dans la ville. C'est son premier résident, le prince Karl Théodore, très amateur d'art et particulièrement de musique, qui accueillit le jeune prodige et compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Bertha, le sourire aux lèvres, enivrée par son effronterie et par la journée qui l'attend, quitte les artères rectilignes du centre-ville. Un peu plus loin, en abordant le square, elle fait face aux travaux du futur Wasserturm. Le Wasserturm sera le premier château d'eau de la ville, à la façade Art Nouveau. Car ici à Mannheim, l'eau est une histoire épineuse et longue qui occupe les élus depuis des siècles. Une saga que chacun suit jusqu'à ne plus la suivre, faisant de la ville la risée d'une partie de l'Allemagne. La situation géographique de Mannheim, au cœur de la vallée du Rhin, préjudicie la qualité de son eau. Les eaux souterraines, ne sont pas très profondes. L'eau des puits est de mauvaise qualité. Chacun sait que le typhus règne encore dans la ville, justement en raison de ces eaux sales prélevées dans ces puits nauséabonds. Toutes les solutions ont été envisagées jusqu'à faire venir l'eau des montagnes par un système ingénieux de canalisation relié à des fontaines ou à des puits répandus un peu partout dans la ville. Faute de financement, le château d'eau semble désormais l'édifice de tous les compromis. Il mesurera bientôt 60 mètres de haut et sa circonférence est de 19 mètres. La ville a promis de l'entourer d'un parc. Espérons que de jolis arbres et des massifs de fleurs allègent très bientôt cette horreur, pense Bertha. Le tricycle a contourné le square. Bertha a emprunté la Kaffertalerstraat, longeant le Théâtre National. Devant elle, le pont de pierre Friedrich Ebert Brücker traverse le Neckar. Bertha quitte la ville. L'aventure commence. Le foulard qu'elle a noué autour du cou vole au vent. L'image est presque irréelle. Une femme aux commandes d'une machine à rouler. Le spectacle est insolite. Eugène, aux côtés de sa mère, s'exclame « Maman, maman, tout le monde nous regarde !» Bertha sourit. C'est précisément ce qu'elle voulait. Dans les rues de la cité prospère, chacun parlera désormais de l'invention de Carl Benz. La patente mobile vient de traverser le Neckar par le pont nord de la ville de Mannheim. Bertha sait que désormais, une grande partie de la route se fera sur des chemins de terre. Elle vient de parcourir 6 kilomètres. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage fou. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Les rayons du soleil se font plus intenses. La journée sera belle. Et c'est une chance, se dit-elle. Il reste 100 kilomètres avant d'arriver chez sa mère, à Pforzheim. D'ici là, Bertha doit longer le Neckar vers le sud-est, un tronçon qu'elle envisage avec une certaine appréhension. Parfois, les fortes pluies créent des affaissements de terrain. Plus d'une voiture à cheval a déjà chuté le long des berges du Neckar. La route est rarement remise en état et garde parfois longtemps les séquelles de ce type d'accident. Bertha progresse avec prudence. Son fils, Richard, inquiet, suit chaque mouvement de manivelle de sa mère. À bord du tricycle motorisé, le silence s'est imposé de lui-même. Chacun sait qu'à ce moment, Bertha a besoin de concentration. Cela fait plus d'une heure maintenant que Bertha et ses fils ont pris la route. Sur les chemins, les regards des marcheurs sont interrogatifs. La patente mobile est observée comme un engin venu d'un nouveau monde. Les passants s'arrêtent sur le passage de Bertha, se retournent et regardent disparaître au loin le tricycle bruyant, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans l'horizon. Une borne indique Adelberg dans 14 kilomètres. Bertha progresse bien. Elle sait que chaque minute est comptée. Il faut atteindre Pforzheim avant le coucher du soleil. Il serait impensable de se retrouver aux portes de la forêt noire, plongée dans l'obscurité et son insécurité. Pointant le doigt, Eugène s'écrie « Les tours ! Je vois les tours d'Heidelberg !» Les tours carrées de l'église du Saint-Esprit dominent le paysage. Bientôt, sur le versant opposé, comme coincé entre deux collines surplombant la ville, le château romantique d'Heidelberg apparaît, majestueux. De sa stature imposante, il contrôlait jadis la vallée du Neckar. Ses jardins aménagés en terrasses à flanc de coteaux, ses grottes et ses fontaines au génie hydraulique remarquable lui ont permis autrefois d'être considéré comme la 8e merveille du monde. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges, mais la découverte de ces monuments et de cet incontestable patrimoine du sud-est allemand émeut les visiteurs. Le tout nouveau pont Karl Theodor de 200 mètres de long permet à Bertha d'entrer plus facilement qu'elle ne l'avait craint dans la vieille ville. C'est la première fois qu'elle l'emprunte. Richard et Eugène s'enthousiasment de traverser le fleuve en toute sécurité. Les parapets de pierre éviteront à la patente de basculer. Les adolescents se plaisent à regarder le fil de l'eau ruisseler entre les arches du pont posé sur le Neckar. À Heidelberg, le romantisme est partout. Les roues cerclées de métal frappent les pavés de la ville. Dans leur inquiétude, Les garçons se sont penchés hors du véhicule. Sur ses trois roues, la patente mobile a failli perdre l'équilibre. Mais dans un cri, chacun a retrouvé sa place. Le tricycle poursuit sa découverte des rues de la cité la plus poétique d'Allemagne. Là encore, les passants s'interrogent sur cet engin étrange qui traverse leur petite bourgade. Des maisons en colombage, des couleurs vives, des ruelles accueillant les commerces et les artisans, des cordonniers, des ferronniers, des boulangers poussant leurs charrettes de pain. La vie semble s'écouler paisiblement à Heidelberg. Bertha dépasse le campus de la ville. Étrangement, l'université dispose d'une prison, la prison des étudiants. On y enferme quelques jours ou plus les étudiants les plus récalcitrants. Richard, songeur, semble parcouru d'un frisson, alors que Jeanne s'émerveille de découvrir l'Altstadt. L'Altstadt, c'est le cœur de la ville. Des ruelles bordées de bâtiments baroques et de maisons bourgeoises à flanc de colline. Si les deux adolescents profitent pleinement du spectacle, Bertha sait qu'elle va devoir arrêter sa machine. Les réservoirs d'eau et d'essence s'épuisent. Pour l'instant, la jeune femme se concentre sur l'itinéraire. En quittant le centre-ville, elle devra bifurquer vers la droite. Il ne faudra pas manquer l'indication, s'il y en a une. Après la traversée de la rivière, il faudra descendre vers le sud, puis s'éloigner de la rivière en direction de Röhrbach, Leimen et enfin Wisloch. C'est là que Martha espère pouvoir faire une pause. Il faudra graisser les moyeux et vérifier les tensions des courroies, contrôler le niveau d'huile et d'essence. Il faut que la machine tienne jusque-là. Bertha fait ses calculs. Selon ses estimations, elle pourrait tenir sans problème jusqu'au-delà de Wisloch. Mais mieux vaut être prudente. Les garçons tiennent le coup. Ils sont tout à la joie de leur aventure. On continue. Röhrbach n'offre rien de bien captivant, si ce ne sont les visages burinés par le travail de quelques ouvriers, des hommes, des femmes et des enfants cultivant leurs champs. Poussant des charrettes trop lourdes ou des voitures à cheval, guidés par des bêtes de somme marchant au pas dans les ornières des sillons de leur herse. Les plaines fertiles du sud du Neckar, à l'est du Rhin, ces terres travaillées permettent à Bertha de progresser sans peine. Depuis les champs, mains sur les hanches, les paysans se redressent, observant ce drôle d'engin traverser leur campagne. Bientôt, la bourgade de Leimen, appartenant au grand-duché de Bade, se dessine avec ses jolies maisons à colombage. Partout. Partout, des curieux se massent sur les bords des chemins pour regarder l'étrange véhicule avec à son bord cette femme et ces deux jeunes garçons. C'est l'essence. Le niveau est trop bas. La machine s'est arrêtée. Bertha saute du véhicule, vérifie le niveau de carburant. Elle a attendu trop longtemps. Le réservoir est vide. Bertha sait qu'elle doit trouver une pharmacie. Ses deux fils à ses côtés l'aident à pousser le tricycle. Plus de 300 kilos de métal, de bois, de cuir. Sur plusieurs kilomètres, Bertha, Richard et Eugène vont pousser les 360 kilos de la patente. Sur la place de Wisloch, en hauteur, une maison patricienne peinte en jaune. Un joli perron et un escalier à deux volets en fer forgé. D'un pas rapide, Bertha monte les marches qui la mènent à l'officine. La porte est close. Elle frappe au carreau. Rien. Elle jette un œil à l'intérieur. Personne. Un passant lui conseille le café voisin. Le pharmacien s'y trouve souvent. N'hésitant pas une seconde, Bertha fait volte-face, descend les quelques marches qui la séparent de la place et pousse la porte du café voisin. L'intérieur est sombre, mais elle parvient à distinguer les visages interrogateurs des hommes attablés. Il est inhabituel, d'autant plus dans une petite ville, qu'une femme puisse se rendre seule dans un café. Ne se laissant pas impressionner, Bertha s'approche du seul homme à la mise soignée. « Vous êtes le pharmacien ?»« Non, parce que j'ai besoin de vous. » Bertha achète tout le stock disponible de l'hygroïne, un détachant. La ligroïne, cet éther de pétrole appelé gasoline ou benzine, se vend en petite quantité. Sous l'œil éberlué du premier pharmacien pompiste de l'histoire, patiemment. Bertha remplit son réservoir. Avant de reprendre la route, elle sort de la poche de sa longue jupe un petit carnet et un crayon. Soigneusement, elle note « Pensez au point de ravitaillement ». Bertha a pris soin de demander à l'apothicaire la route de Pforzheim. Elle sait qu'elle doit s'éloigner du Neckar et de la plaine du Rhin, descendre vers le sud. Comme repère, elle aura les premiers contreforts des montagnes d'Odenwald. Le relief sera plus accidenté. Et elle s'en aperçoit très vite. La première côte à la sortie de Wisloch oblige les deux adolescents à sauter hors du tricycle et à le pousser sur quelques dizaines de mètres pour parvenir au sommet. La région du Kraichgau dans laquelle vient de pénétrer Bertha est vallonnée. Elle est limitée à l'ouest par la vallée du Rhin. Au nord, par son affluent, le Neckar et les montagnes d'Odenwald. Au sud, c'est la forêt noire, dense, impénétrable. Bertha redoute les chemins escarpés de montagne. Le véhicule est bien trop lourd pour franchir ces vallons. À plusieurs reprises, les adolescents doivent pousser la patente mobile. Bertha pense à écrire dans son carnet qu'il faudra ajouter de nouveaux rapports à la boîte de vitesse. Pieds sur les freins, après les montées viennent les descentes. Bertha est préoccupée. Après toutes ces déclivités, les freins de bois se sont usés, plus rapidement qu'elle l'avait imaginé. Folle d'inquiétude, à l'idée de perdre le contrôle de la patente, elle se met en quête d'un cordonnier. Dès le prochain village, elle fait fabriquer une pièce en cuir qu'on cloue sur chacun des freins. Avec cette protection, les freins pourront faire leur travail sans risque. Dans son petit carnet, elle a pris soin d'annoter cette solution, n'imaginant pas qu'elle venait d'inventer pour la postérité les plaquettes de frein. Sur ces routes vallonnées, à cette époque où le cheval règne en maître, le trio rencontre bien des regards sceptiques. Un engin bruyant se déplaçant avec une force mystérieuse n'a rien de très concret pour l'avenir. Mais Bertha ne renonce pas. La voiture tout saute, le conduit de carburant s'est encrassé, sous l'œil mi-effrayé, mi-moqueur de certains détracteurs et curieux, elle enlève une épingle à cheveux de son chignon et débouche le conduit obstrué. Dans les petits cafés voisins, on en parlera longtemps. Apercevant Bruchschal, au loin, Bertha décide de s'y arrêter. C'est de là qu'elle enverra un télégramme à Karl, lui faisant part de son expérience et des améliorations à apporter à la patente mobile. Bien sûr, elle le rassurera aussi, promettait le garçon. Depuis quelques kilomètres, le tricycle longe la ligne de chemin de fer qui relie Heidelberg à Karlsruhe et passe précisément par Bruchschal. À l'entrée de la ville, Bertha aperçoit une usine de signalétique ferroviaire. Voilà ce qu'elle doit ajouter à ses notes. Il faut penser à créer une signalétique indiquant les passages difficiles, les directions à suivre et les kilomètres restants avant chaque ville, comme pour les trains. Bruchschal est une ville prospère. Elle s'est considérablement développée depuis l'arrivée du chemin de fer. La ville a connu un véritable essor industriel grâce au tabac et au houblon. Aux asperges aussi. Ce sont les meilleurs d'Europe, paraît-il. Ces développements économiques font rêver Bertha. La jeune Allemande voit loin. Plus qu'une promenade en famille qui alimentera peut-être, elle l'espère, les manchettes des journaux, ce voyage tend à prouver que l'invention de Karl est viable. Et fiable aussi. Bien plus que de réaliser le premier long trajet à bord d'un véhicule motorisé, cette invention, Bertha en a la conviction. Et l'avenir de toute la société. Cela fait plus de 6 heures maintenant que Bertha Benz a pris le contrôle de la patente. Les garçons sont fatigués. Et par malheur, la chaîne qui entraîne les roues vient de lâcher. C'est un caillou que Bertha, absorbée par ses pensées, n'a pas vu. Le choc a été tel que la chaîne s'est rompue. Mon Dieu, elle aurait dû s'arrêter plus tôt. Cet accident, c'est bien sûr de la défaillance. Sa fatigue, son inattention font baisser sa vigilance. Bertha est inquiète. Cet incident pourrait mettre en péril son arrivée à Pforzheim avant la nuit. Dieu merci, L'entrée de la ville draine du monde. Bertha arrête une voiture à cheval et demande à voir un forgeron. La voiture promet de lui en envoyer un dès que possible. Mais les minutes s'égrènent. Impossible pour Bertha de rester là à ne rien faire. Alors, avec Eugène et Richard, elle décide de pousser à nouveau la patente sur plusieurs kilomètres. Tout à coup, n'y croyant plus, le forgeron à cheval vient à leur rencontre. Bertha bénit le ciel. Il répare la chaîne. Le tricycle peut reprendre la route. Les villes et villages défilent. Chacun a dépassé sa fatigue. L'objectif se rapproche et l'équipé reprend courage. Karlsruhe redonne le sourire à Bertha. C'est une ville qu'elle affectionne particulièrement. Enfant, elle y a passé quelques étés. La ville est le point de départ idéal pour découvrir la forêt noire. Elle se souvient de l'odeur des pains briochés vendus par les marchands devant le château de Karlsruhe. L'édifice monumental, flamboyant, est l'emblème de la petite ville. Sa couleur jaune ocre agit comme un phare sur la cité. Sa tour domine les quartiers alentours à près de 42 mètres de haut. Bertha se souvient, enfant, avoir rêvé de grimper sur ses toits pentus. Elle aurait adoré y dénicher des plans de machines secrètes et des trésors bien gardés. Elle se rappelle les cactus et les bananiers enfermés dans la serre majestueuse du jardin botanique. Elle a encore en mémoire les parfums exotiques et les essences inconnues des fleurs du jardin. Le chant des oiseaux piaillant de joie en respirant les senteurs de ces plantes venues d'ailleurs. Elle revoit la joie des enfants courant dans les allées du parc et le désespoir des adultes, essayant de leur apprendre les bonnes manières. Ce que Bertha préfère à Karlsruhe, c'est son vieux quartier, le quartier médiéval, comme on l'appelle, avec ses maisons à colombages, ses ateliers d'artistes, ses fontaines fraîches en été et l'odeur des géraniums. Ils sont partout, ornant les devantures des élégantes maisons de la place du marché. Ce qu'elle aime à Karlsruhe, ce sont les remparts, les ruelles étroites, les boutiques coquettes et la célèbre colline de Thürnberg. Elle se souvient l'avoir gravi, enfant. S'est émerveillée du spectacle de la ville depuis ce surplomb de 250 mètres de haut. Elle se rappelle les escapades et les rires, les courses folles en dévalant vers la ville. Mais alors que Bertha partage ses souvenirs avec ses fils, la Motorwagen semble souffrir d'un mal dont elle ne perçoit pas la cause. Le véhicule roule, mais paraît s'éteindre un bref instant et redémarre aussitôt. Si les passants continuent de s'interroger sur le passage du tricycle, Bertha est préoccupée. Quelques messieurs soulèvent leur chapeau à la vue d'une dame, d'autres, interpellés, regardent l'étrange tricycle s'éloigner dans un vacarme assourdissant. Mais Bertha est songeuse, inquiète par ses coupures de courant ou de carburant. Hors du centre-ville, elle éteint le véhicule. Elle accorde quelques instants de repos au tricycle. Le relance, plus rien. À bord, Richard et Eugène se sont tus. Calmement, Bertha repousse sur le bouton d'allumage. Elle entend un léger souffle de moteur, puis à nouveau, un long silence. La jeune femme saute hors du tricycle. Penchée sur sa machinerie, la mère de famille demande à son aîné de prendre les commandes. « À mon signal, tu pousses sur le bouton. » Toujours rien. Bertha réfléchit. Elle ouvre le compartiment abritant la mécanique. Elle s'aperçoit qu'un câble électrique est à la source du problème. C'est un court-circuit. Il faudrait un isolant pour rétablir le courant. Bertha disparaît alors derrière un arbre et réapparaît, tenant à la main sa jarretière. Sous le regard incrédule de ses fils, ricanant sous cap, elle encercle le fil d'allumage avec l'élastique de son sous-vêtement et redémarre. Une astuce dont seule une femme pouvait avoir le secret. Sur le tricycle, cet épisode a fait place à une bonne humeur entremêlée de rires. Bertha respire à plein poumon. Alors qu'elle approche de la forêt noire, elle se sent heureuse. Retrouver les terres de son enfance déclenche en elle à chaque fois un sentiment mêlé de douceur et de sécurité. Elle aime la forêt noire et ses cyprès, ses pins et ses hêtres, les hautes cimes des arbres défiant le ciel. Ses promenades l'hiver lorsqu'un manteau de neige recouvre les sentiers, ses villages pittoresques et sa cuisine gourmande. L'odeur des gâteaux de pommes, de cannelle et de raisin. Le vin chaud aussi, réconfortant. Elle aime le chant des coucous des horloges de bois ponctuant le temps qui s'écoule, paisible. La forêt noire, c'est le pendant français des Vosges. Königsbach, Stein, les villages aux maisons de colombage se succèdent et se rapprochent de plus en plus pour former l'agglomération de Pforzheim. Bertha a parcouru 106 km à bord du premier véhicule motorisé de l'histoire de l'automobile. Le soleil a décliné. À la tombée du jour, Bertha et les enfants retrouvent la maison familiale de ses parents. À Pforzheim, la mère de Bertha, informée par Karl, n'y tenait plus. Elle s'est rongée les sangs. Soulagée, elle accueille ses petits-fils et sa fille d'un sourire radieux. Très vite, elle exprime ses inquiétudes, cette folie et sa fierté aussi envers l'impétuosité de sa fille. Richard et Eugène racontent cette journée riche d'aventures et de découvertes. Exaltée, Bertha est certaine que son véhicule sera un immense succès. Elle fait le point sur chaque détail et sur les améliorations à apporter à la patente. Dans son carnet, elle ajoute les dernières observations faites sur l'invention de son époux. C'est certain, ce véhicule sera un immense succès. 3 jours plus tard, pour sidérer encore plus de monde sur les chemins du retour, Bertha décide de choisir un autre itinéraire pour rejoindre Mannheim. Il faut dire qu'elle craint un peu les chemins escarpés. Elle choisit de longer le Rhin. Elle sait que la presse est déjà informée. Elle sait que dans le grand public, on parle enfin de la patente Motorwagen 3. Une nouvelle ère attend le monde. Bertha l'a déjà compris. Karl gagnera en confiance et son carnet de commandes se remplira tout naturellement. Au total, Bertha Benz aura parcouru 194 km, inscrivant pour toujours son échappée comme le premier parcours longue distance jamais réalisé avec un véhicule motorisé. L'aventure de Bertha n'est pas un moment de gloire éphémère. Il est l'aventure d'une véritable pionnière inaugurant le futur de l'automobile. Il marque le passage d'une innovation à une machine de fabrication industrielle de consommation domestique. Le pharmacien de Wisloch a pu se réjouir. Longtemps, les pharmaciens approvisionnèrent en benzine les véhicules. Et si vous passez par la jolie ville de Wisloch, vous pourrez découvrir son commerce qui existe toujours. Karl vendra près de 25 patentes Motorwagen 3 et Bertha sera celle qui, aux côtés de l'invention d'un homme, aura permis le rêve automobile. Au tournant du siècle, la société Benz et compagnie deviendra le plus grand manufacturier de voitures au monde. En 1926, elle deviendra Mercedes-Benz. N'en déplaise aux messieurs, il s'agit bien de l'exploit d'une femme qui a jeté les bases de l'aventure automobile mondiale. Voilà pour ce récit de la pionnière de l'automobile, une histoire que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Pénélope.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.